Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Myriam.
Salut.
Eh ben, je suis ravi d'être là. Merci d'être venu jusqu'à nous au studio. Je sais pas si t'as l'expérience des studios d'interview, mais le nôtre est encore tout petit. C'est humble, mais
non, c'est super. Le dernier que j'ai fait, c'était dans un endroit très sympa, dans un appart. Mais là, c'est mon vrai premier studio d'enregistrement, donc super cool. Merci de m'accueillir.
Eh ben, écoute, c'est moi qui suis ravi d'être là. Je sais que t'es souvent en plus en train de crapahuter dans les montagnes et souvent en voyage un peu partout à travers le monde. Donc c'est rare que tu passes à Paris, donc merci beaucoup en tout cas.
Je suis contente d'être ici.
Ouais. On a un sacré programme aujourd'hui, parce que j'ai envie de tout comprendre de ton parcours, de comprendre aussi ta personnalité, parce que donc pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu fais du VTT de descente.
C'est ça.
Deux fois championne du monde.
C'est ça.
2019 et 2021. Et ça m'a l'air d'être un sport ultra casse-cou. J'en ai fait un peu, mais moi, j'avance pas. quand je vais aux Arcs, je me book généralement une petite journée. Mais du coup, j'ai envie de découvrir un petit peu ta personnalité. Mais je t'ai dit, avant tout ça, j'ai une question que j'adore poser aux invités. Et c'est la toute première question que je pose à tous les invités. Et c'est de savoir, quel est ton premier souvenir de sport?
Mon premier souvenir de sport, c'était dans une classe, j'étais au collège. Et pendant un cours, le prof de PS, donc de sport, nous a demandé de faire un souhait sportif. Et là, j'ai de suite pensé à Anne-Caroline Chausson, qui a été plus de 10 fois championne du monde de VTT descente, médaille d'or aux Jeux Olympiques de BMX. Et ça m'a inspirée, en fait. Je me suis dit, ouais, je rêverais avoir le palmarès d'Anne-Caroline Chausson. Alors aujourd'hui, je n'y suis pas et je pense pas avoir un jour son palmarès, mais en fait, ça a été vraiment quelque chose d'inspirant et un petit souhait que j'ai pu quand même toucher un petit peu avec mes deux titres. Et voilà, elle s'entraînait sur les terres vers là où j'habite et c'était vraiment la légende qui me faisait rêver. Juste croiser sa voiture, ça me motivait. C'était vraiment voilà une personne inspirante avec qui je m'entends bien aujourd'hui. Son parcours m'inspire toujours encore beaucoup. Donc voilà, mon premier souvenir sportif d'enfance, c'était vraiment cette inspiration pour Anne Caro.
Ok. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand tu l'as rencontrée?
Ah ben c'est une personne qui est assez timide et moi j'étais toute émerveillée, donc il y avait juste beaucoup d'émotions et elle faisait partie de petites actions locales qu'il y avait vers chez moi et j'étais juste toute émoustillée de la rencontrer et elle m'a partagé vraiment sa passion, elle m'a donné 2-3 conseils et elle m'a beaucoup parlé de se faire plaisir, de petits atouts de la performance et puis de suivre mon rêve.
Ok, ok. Et hormis le plaisir et de suivre ton rêve, tu te souviens de peut-être, je sais pas, des petits détails qu'elle a pu te dire ou peut-être des conseils peut-être contre-intuitifs, tu vois, dont tu te souviens?
Oui, vraiment, elle insistait beaucoup. Après, j'ai pu avoir la chance de continuer à creuser avec elle et elle insistait pas mal, vraiment beaucoup sur le plaisir et de se nourrir, voilà, de motivation, de tout, de se nourrir des autres, de se nourrir pour vraiment se surpasser tous les jours, mais vraiment mettre l'accent sur le plaisir et tu vois de toute façon quand elle roule qu'elle s'amuse, donc c'était ça que je me souviens.
Ok. La question, j'allais dire, tu lui as piqué des trucs, mais c'est très mal formulé. Mais est-ce que, tu vois, au-delà de l'inspiration, t'as été amené à faire un peu de mimétisme? Moi, je sais que je progresse énormément par mimétisme dans mes podcasts, dans la façon avec laquelle j'entreprends. J'ai deux phases d'apprentissage. J'observe quelqu'un, je prends ce que j'aime et ce que je pense pouvoir adapter à moi. Et une fois que j'ai copié et que je me sens assez à l'aise pour explorer moi-même, je vais adapter, tu vois, ce que j'ai pu copier et je vais le tourner à ma façon. Je sais pas si toi t'apprends de la même façon.
Oui, je vais toujours prendre le bon des autres et par exemple Anne Caro, elle s'est toujours comparée aux garçons et elle a toujours fait la course avec les garçons. Alors j'ai vraiment appliqué cette méthode qui aujourd'hui je me dis bon, ça a du bon mais ça a aussi des côtés un peu piégeux parce que quand tu ne fais que te comparer à des garçons, t'as vite fait aussi d'être déçu, de te sentir toujours en dessous, parce qu'on n'est quand même pas fait de la même manière, on n'a pas la même masse musculaire, on n'a pas les mêmes hormones. Mais c'est vrai que dans un milieu où il y a peu de filles, ça a été toujours quelque chose de très motivant de me dire non mais là mon chrono c'est un chrono et je le compare avec les autres chronos. Alors qu'aujourd'hui j'en reviens un peu à me dire compare ce qui est comparable parce que ça peut aussi avoir des pièges de se sentir toujours le dernier chrono quand t'es dans une équipe avec plusieurs garçons mais cette manière de vraiment voilà se dire ok on n'est pas beaucoup de filles mais c'est pas pour autant qu'on peut pas jouer avec les garçons donc c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée voilà de elle gagnait tout parfois elle faisait des compètes où elle était très très bien classée avec les élites hommes donc ça a été un peu ce que j'ai suivi de faire et souvent je compare mon chrono avec les élites ouais.
Ok, d'accord.
Donc ça tire vers le haut même d'être assez élitiste comme ça.
Ouais, mais c'est justement, tu vois, c'était une question que je voulais te poser, savoir si, enfin moi je vois ça, enfin le VTT de descente comme un sport ultra casse-cou, du coup faussement masculin, enfin tu vois, en tout cas dans les préceptes, et je voulais te demander, ouais, si justement parfois, ça me manquait pas un peu de féminité, tu vois, parce que vous avez une image hyper dure, il y a des chutes, vous avez le casque, des combinaisons, l'ambiance un peu aussi visuelle, tu vois, il est très rock'n'roll, il est très un peu Power Rangers, tu vois, je trouve. Et je voulais te demander comment est-ce que toi t'apportes ta touche à toi.
Je pense que c'est juste en restant moi-même et en cultivant vraiment ce côté féminin que j'ai depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé des choses de filles, le shopping, passer du temps avec mes copines, me faire les ongles, aller chez le coiffeur, faire des trucs très girly, clichés. Et pour moi, c'est pas parce que je fais ce sport que je dois laisser tomber ma féminité d'un côté. Donc ça a été vraiment, je me rappelle il y a 10 ans de ça, voir les filles qui enchaînaient les compètes et les compètes et moi qui étais au bord de ma piscine à me faire bronzer dans le sud et me dire mais c'est ça qui va faire que tu vas être meilleure quand tu reviens sur la course le week-end prochain. Et j'étais persuadée que c'était mon arme, c'était je suis dans un monde très masculin, dans un monde très raw, comme tu dis, et au final, c'est mon arme secrète, c'est de ne pas laisser tomber ma féminité, parce que tout est question de bon mélange, et que je pense que si tu es équilibrée dans ta vie et dans qui tu es, la personne que tu es, tu performes. Après, chacun vit sa féminité comme il le souhaite, mais je pense que ça ressort toujours à un moment donné, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un sport très très Power Rangers, comme tu dis, mais par exemple, Tanessie Grave, une amie concurrente, elle va dessiner ses tenues en mettant sa petite touche dessus. Je trouve que c'est quand même chacune a sa façon de développer sa féminité parce que ça fait vraiment partie du jeu.
Ouais, mais écoute, tu fais bien de le dire, j'avais envie de te poser la question aussi parce que j'ai rencontré Tess le 2, que tu dois connaître.
Ouais. Et
elle, tu vois, elle avait le même problème, elle s'entraîne avec un groupe de garçons, elle se compare aussi beaucoup avec des garçons justement pour progresser, et je pense que c'est, pour elle aussi, ça a été une vraie arme. Mais elle me disait que par moments, c'était un petit peu difficile parce que, notamment vis-à-vis de son entraîneur, parce que son entraîneur avait jamais entraîné une femme, quoi, tout simplement, et elle disait à quel point elle avait besoin en fait de cultiver cette féminité pour compenser, tu vois, le fait que elle soit dans un monde assez masculin, quoi. Et c'était une arme pour contrebalancer, quoi.
C'est ça. Je pense qu'il faut juste bosser avec des gens qui soient ouverts d'esprit et qui voilà. Après, je bosse de plus en plus avec des filles aussi. Donc, pareil, tout est question de bon mélange. Ma préparatrice cérébrale s'appelle Aurélie Lamy. C'est la personne qui s'occupe de ma com, des réseaux sociaux. Anna, elle est une chouette nana aussi. Donc, ça fait du bien. C'est vrai que j'ai 3 grands frères. J'ai été vraiment élevée dans un monde très masculin, au point où j'ai eu de la difficulté à être vraiment bien avec les filles. C'est-à-dire que j'avais des copines avec qui j'étais depuis toujours, mais parfois je me sentais un petit peu incomprise. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je sens qu'il y a eu un step de fait. Je pense que ce soit dans le sport ou moi vis-à-vis des filles. Et je trouve vraiment le bon équilibre et je me sens comprise en fait dans j'ai cultivé vraiment, j'ai grandi avec les 3 grands frères, avec tous ces mecs et j'adore ce monde. Mais maintenant j'arrive à mettre le haut là, à dire oh, là j'ai vraiment besoin de un petit temps pour moi et mes copines et les garçons comprennent. Je pense que il y a eu des choses qui ont changé.
On évolue dans le bon sens.
Je suis un peu un caméléon aussi. Quand je suis avec des garçons, je suis un petit mec. Et puis quand je suis avec des filles, je suis full girly. Donc, suis bien dans tous les mondes.
Ok, ça marche. merci de nous faire part de ça. Parce que tu sais, des fois, avec les réseaux sociaux, on a un peu une image un peu déformé, tu vois, des gens. Et c'est vrai que, notamment, tu vois, je te suis beaucoup sur Insta parce que
J'adore, tu vois, ce contenu. Moi, ça me fait voyager. J'adore tous les sports de nature. Et, bah, on voit l'athlète, tu vois, on voit un peu moins, la femme, tu vois, qui se cache derrière. C'est peut-être aussi un choix de communication, tu vois, et certains se mettent très à nu sur, on va dire, ou partagent en tout cas tous les côtés de leur vie. Mais c'est pas le choix de tout le monde.
Bah, c'est plus que c'est la vie classique. Qui ne fait pas forcément rêver et qui pourtant pourrait intéresser les gens justement. Ben, on voyage, on vadrouille, mais on a aussi un bon équilibre. Ouais. Moi, j'aime être la simplicité, la pure simplicité, et ça fait partie du jeu aussi. Donc ouais.
Tu mentionnais un peu ton enfance avec tes trois frères. Si tu devais mettre quelques adjectifs sur la petite Myriam, tu vois, adolescente, celle qui rentre au collège, tu vois, elle sort du primaire, c'est bon, elle est plus vraiment chez les petits, elle rentre, tu vois, dans l'adolescence. Elle était comment à ce moment-là?
Là, c'était challenging. C'était challenging parce que c'était la période où ça me saoulait d'aller à l'école VTT alors que c'était que le samedi matin, où je voulais juste faire des nuits blanches au collège avec mes copines à se faire des tresses toute la nuit, où c'était un peu la bataille avec mes frères où on se tapait sur les doigts. Donc il y a eu des petits moments où je suis vraiment contente de les avoir eus à mes côtés pour me dire continue le sport. Ouais, j'avais même plus envie de faire du sport. Continue le sport et vraiment tous ces moments cool. Donc ça a été les premières années, je dirais, de l'adolescence. Et puis après, ça s'est transformé en van life, pas de boulot, camping sur les Coupes de France, la musique à fond avec mes frères. Et là, ça a été le début vraiment du partage, de la passion, mes premiers podiums en Coupe de France. Et de là, tout est parti. Mais il y a eu une période où c'est sûr que j'avais juste envie de plus faire trop de sport. Mais c'était assez court et c'est pas un souvenir trop marquant. Mais je me dis quand même merci mes frères d'avoir de m'avoir traîné avec eux pour pas complètement couper avec ce monde du vélo. Voilà.
Ok. Et t'étais comment à l'école?
À l'école, j'étais sérieuse, bonne élève. Non, j'ai quand même toujours, je sais pas si c'est par mon éducation, mais l'école elle faisait partie quand même des choses très importantes, donc j'étais très studieuse. Ouais, je pense que je suis un peu un ange ou un démon, c'est-à-dire que j'avais un peu les deux côtés où c'était dans le sport, je me défoulais, à l'école j'étudiais, mais j'étais pas si facile que ça non plus, donc okay. Je sais pas trop, c'est dur de parler de soi comme ça.
Non, mais c'est juste pour savoir un peu comment est-ce que tu qui t'étais, tu vois, et aussi comprendre à quel moment tu réalises, enfin... Non, excuse-moi, je reformule ma question, mais quand tu te remets justement à faire du VTT et sur les premières compètes, c'est quoi l'ambition derrière? Est-ce que justement c'est de devenir déjà comme Anne-Caroline? Est-ce que tu y penses dans un coin de ta tête?
Non, là au collège, tu n'y penses pas. Ça a été vraiment fin de lycée où je suis rentrée en équipe de France, où là ça a commencer à me dire c'est cool le sport, mais en fait moi le sport il a évolué vraiment avec ma carrière, donc c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers championnats du monde à 17 ans en 2007 et à cette époque-là c'était très difficile de vivre je pense du vélo, et le sport il s'est vraiment professionnalisé autour des années 2010 où là même le côté athlète a pris le dessus sur ce VTT de la descente, parce que on pouvait croire que c'était un sport où on pouvait faire la fête le lendemain, juste débrancher le cerveau et gagner des courses. Et à partir de 2010 il y a eu vraiment je dis 2010 mais c'est aux ans dans cette période-là où il y a eu vraiment les sportifs, les athlètes en VTT descente ont vraiment dû s'entraîner, développer leur capacité physique, pour pouvoir améliorer leur technique. Et puis je dirais que là on est encore dans une nouvelle ère où on travaille encore plus les capacités mentales. Donc voilà, je dirais 2010 ça a été le step physique, 2020 le step mental, et le sport continue de progresser, se professionnalise, et j'ai évolué avec ça. Donc en 2007, mes premières sélections en équipe de France, c'était pas, je pensais pas que j'allais en faire mon métier, non. Même même jusqu'en quand je suis rentrée, donc j'ai fait des études. D'abord, j'ai fait un DUT technique de commercialisation parce que c'était un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau, parce que j'essayais de faire kiné, c'était très difficile de gérer les deux. Donc j'ai eu cette alternative là, et puis ensuite j'ai réussi à rentrer en école de kiné. Et même là, pendant ces années là, c'était vraiment je fais ces études parce que le sport c'est mon plan B, mais je pensais pas du tout que j'allais en arriver là aujourd'hui. Donc c'était, rien n'a été poussé, tout a été assez fluide, et de prendre vraiment les choses comme elles viennent, et toujours les pieds à terre.
OK. Mais hyper intéressant, tu vois, d'avoir cette vision du parcours. Et tu peux t'entraîner combien de temps par jour, par semaine, du coup?
Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. En fait, nous, on fait un sport très explosif. Quand on fait de la descente, par exemple, on peut faire que...
C'est chronophage aussi, tu vois.
Ouais, c'est-à-dire qu'on fait 10 descentes par jour, et ça prend toute la journée. Parce que entre-temps, il y a tout un travail de visualisation, tout un travail des mécaniciens qui bossent sur le vélo, donc... Je dirais qu'on peut faire entre 12 et 25 heures selon ce qu'on fait, quoi. Si tu comptes une journée de descente entière comme un entraînement, et chose qui est, et que je commence à comprendre seulement aujourd'hui pourquoi je suis aussi fatiguée après 10 descentes de 3 minutes sur toute une journée, parce que c'est vraiment, il y a un côté nerveux qui est très très puissant. Et après, sinon, en général, je fais 3 séances de muscu, les après-midi des efforts cardio sur mon vélo de route, mon vélo d'enduro. Je fais une longue sortie de vélo de route par semaine. Le week-end, on va mettre un peu de la technique avec de la moto, du VTT descente. Okay. Et un petit peu de technique avec de la pump track ou du BMX. Voilà une semaine type pendant les 3 semaines en général que je fais à la maison. Ouais. Et ensuite, tous les mois, on part avec mon équipe, donc Omen Salmekov, en stage. Donc tous les mois et demi, on se rassemble. Donc on est une quinzaine de personnes avec les 3 élites, Amaury Pierron, Thibaut Daprella, moi-même, Hugo Marini, le junior. Et on se retrouve pour tester le matériel. Donc, on a toute l'équipe des mécaniciens, les ingénieurs, les managers. Et là, on va faire vraiment du développement pour avoir le vélo le plus performant, pour travailler, nous, faire de la descente. Et ensuite, quand on rentre chacun chez soi à la maison, là, on va bosser physiquement et mettre juste des petites touches de descente. Mais ça va pas être les gros blocs comme on fait tous les mois. Donc, c'est un programme assez intense et...
Ouais. Ah, tu croises énormément, en fait. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses.
C'est ça, c'est que c'est pas du tout... Alors, parfois, je peux me plaindre encore ça. Et puis, il me dit, mais tu sais que tu fais presque un sport différent tous les jours. Donc, c'est quand même pas redondant comme entraînement. Tu comptes pas les carreaux de la piscine tous les jours.
j'en connais qui échangeraient bien, ouais.
Donc, c'est sûr que ça fait rêver... Mais parfois, t'en as marre d'avoir les fesses sur une selle et c'est bien parfois quelques jours, mais ça peut m'arriver d'en avoir vraiment ras-le-bol parce que c'est vraiment tout le temps. Donc, il y a eu des petits moments un petit peu down, mais sinon, je me régale d'aller m'entraîner, je me régale de ce que je fais, et je suis vraiment, vraiment le côté du sport de haut niveau qui est chouette, quoi, de se lever ce matin pour aller s'entraîner, faire du sport, développer des nouvelles capacités physiques, techniques, mentales.
Ouais. Je vois très bien. T'as parlé effectivement de l'effort nerveux. On en parlait. Enfin, je te disais en intro. Moi, quand je fais un peu de descente, après, ça me lessive. J'ai vraiment l'impression, une sensation de vide, quoi. De plus avoir d'énergie. Parce que effectivement, t'es tellement concentré durant ton effort. Comment est-ce qu'on récupère de ça ?
C'est vraiment avec du repos et j'ai envie de dire aujourd'hui ce qu'on développe quand on fait donc le travail que je fais avec Aurélie Lamy, ma préparatrice cérébrale, c'est justement de mieux récupérer de ce genre d'effort, de ce type d'effort. Et vraiment, je comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps pour... C'est pour ça que ça me fait plaisir de te l'entendre dire. J'avais un peu la sensation que c'était pas normal que je sois autant fatiguée après ces efforts. Parce que je me disais, mais certes, la descente, c'est ultra physique parce que il faut donner un effort très court mais très intense. Mais pourquoi, en fait, ça fatigue autant? Et c'est parce que sur une piste, en fait, c'est comme si tu avais, j'aime bien l'image des crocodiles, tu as des crocodiles un peu partout sur la piste et puis tu dois rester sur ton chemin et il faut faire attention de pas tomber dans la mare à croco, le pierrier avec des dents saillantes, un arbre qui vient un peu se mettre sur ton chemin ou alors quand c'est de la boue. Donc c'est, en fait, c'est vraiment cette capacité de concentration pour pouvoir éliminer tous les pièges, adapter son geste au piège. Et donc voilà, donc avec Aurélie, on va travailler beaucoup des exercices donc de respiration, de régénération. Elle m'a fait tout un programme pour pouvoir vraiment rafraîchir, mieux récupérer pour le lendemain. Et là, j'ai envie de dire, c'est une année un petit peu spéciale parce que donc du coup, ça fait 7 mois que je souffre de symptômes post-commotionnels. Et c'est ce qui aide aussi à me rendre compte à quel point la descente nécessite vraiment des capacités nerveuses extrêmes. Et d'un côté, on dit qu'on apprend dans les périodes difficiles beaucoup de choses. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que ben là, je mets l'accent à fond sur tout ce travail de tout ce travail cérébral qui me servira par la suite pour mieux récupérer. Donc, donc voilà, c'est un mal pour un bien. Mais c'est sûr que j'ai pas la sensation de perdre de mon temps de ce côté-là parce que je développe vraiment des nouvelles capacités cognitives en ce moment.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, on connaît vachement bien, tu vois, d'un point de vue médical, toutes les blessures ou tous les maux un peu physiques, tu vois, musculaires, articulaires et tout tendineux. Le cerveau, même pour les médecins, c'est plus obscur. On sait, mais par contre, on sait qu'il y a un énorme potentiel. Et que si on le travaille, on peut faire des choses énormes. Et ce que je trouve dur, tu vois, quand t'es athlète de haut niveau, c'est que tu te fais une déchirure musculaire, tu le sens. Hop, t'as une gêne, tu vas te mettre, je sais pas, si c'est à l'ischio, tu vas boiter et puis et du coup, tu vas te reposer. Le cerveau, tu vois, comme on est des êtres qui évitons la douleur et qui sommes quand même des êtres très optimistes, on est en permanence, tu vois, en train d'oublier les trucs négatifs, en permanence, tu vois, en train de refouler, de remettre à demain justement cette régénération un peu du cerveau, et on oublie en fait de récupérer de récupérer cérébralement, quoi.
Donc, c'est ça pour moi, je suis complètement consciente aujourd'hui que plus tu vas récupérer, mieux tu vas donner, et que il faut activer autant la vraiment la récup que l'entraînement, et que ben c'est aussi important d'entraîner son cerveau. Enfin, moi, j'ai des exercices et je veux dire, ça m'a mis du temps à dire, mais c'est, je vais être intransigeante sur aller faire une PMA en vélo de route, et alors que mes exos de vraiment de récupération, ça va être un peu, c'était un peu la deuxième roue du carrosse. Alors qu'en fait, c'est aussi important parce que les deux sont vraiment complémentaires. Et oui, dans le vraiment côté médical, je pense que c'est très très difficile parce que j'ai fait des études de kiné et que la commotion cérébrale, on ne l'a pas vu, on a vu le trauma crânien très très poussé, et que voilà, il y a, en fait, je pense qu'il faut juste accepter qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors je demande aux médecins, mais pourquoi on peut aller sur la lune aujourd'hui, et vous me répondez autant de on ne sait pas sur la commotion cérébrale, quoi, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut vraiment accepter qu'il y a des millions de connexions dans le cerveau. Et que c'est juste pas possible, ou du moins aujourd'hui, de tout comprendre, mettre, c'est pas des fibres musculaires, on peut pas comparer le cerveau à un muscle, et c'est pas juste des fibres lentes, des fibres rapides, c'est pas une déchirure qui se répare, c'est pas un os qui se consolide en 3 à 6 semaines, la première consolidation, c'est juste d'accepter vraiment ce, ben, il y a plein d'hypothèses et il faut travailler un peu tout. Donc c'est vraiment difficile de se soigner d'une commotion quand il y a autant de on ne sait pas.
Ouais. Mais écoute, on va essayer de creuser un peu le sujet, mais juste, tu vois, j'aimerais que les auditeurs qui connaissent un tout petit peu moins le VTT de descente, ils se rendent compte à quel point c'est un sport qui nécessite d'être focus et qui prend de l'énergie. Pour ça, ce que je te propose, c'est que tu me dises, sur une compétition, où vous roulez quand même beaucoup, combien tu vas avoir de descentes?
Alors, du coup, là, tu me parles d'une compétition, c'est une chose qui va être vraiment différente d'un camp d'entraînement que je peux faire avec mon équipe, parce qu'une compétition, on va justement essayer de s'économiser au maximum. On va essayer donc de repérer la piste, donc beaucoup à pied. On va d'abord faire une journée où on va prendre 3-4 heures pour connaître par cœur chaque caillou, chaque racine. Donc le premier jour, on l'a fait à pied.
Et là, ça, tu visualises tout, tu photographies tout dans ta carte mentale et ta mémoire.
C'est que c'est indispensable. Si tu fais pas une reconnaissance à pied, tu peux pas aller vite comme ça. Alors ça peut nous arriver, par exemple pour un shooting photo, d'aller rouler sur une piste et puis tu te sens pas du tout en confiance. Et puis en fait, tu dis, mais je l'ai pas fait à pied, donc c'est normal, quoi. Donc premier jour, la reconnaissance à pied. Indispensable. Et ensuite...
Donc ça, tu dis, c'est 3-4 heures.
Ouais.
Et c'est la veille de la course.
Non, c'est le premier jour. Donc, on a d'abord une reco à pied, une journée reco à pied, une journée reco vélo, une journée qualif, une journée finale. Donc, autant te dire que le dernier jour de la finale, la piste, on la connaît par cœur, mais le terrain, il évolue. C'est ça qui est différent, par exemple, avec un sport comme le motorsport ou la route reste la route. Nous, le terrain, il évolue. Donc, tu peux reconnaître la piste le premier jour à pied. Ça va juste dégrossir, mais la piste sera totalement différente le dernier jour. Donc, certains refont une reconnaissance à pied en milieu de course. Donc, c'est là que le côté physique est très important. Descendre une montagne, vu comme c'est raide, alors que t'as fait des rocos, tu la marches, enfin c'est que de l'excentrique sur les jambes. Nerveusement, même la roco à pied, t'arrives d'une roco à pied, tu t'es arrêté tous les deux pas pour regarder ce qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds, et t'arrives en bas et t'es lessivé aussi, donc c'est ça. Donc premier jour roco à pied, et le deuxième jour on fait donc les reconnaissances sur le vélo.
Ok.
Et là, c'est là qu'on va pas en faire trop, on va en faire, je dirais, 6.
Ok.
Pour pouvoir régler son vélo. Ouais. Donc, on va adapter vraiment le vélo, se mettre en confiance, trouver le meilleur setup pour le vélo. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests l'hiver sur différents types de pistes. Comme ça, on va être beaucoup plus réactif pour trouver le bon réglage selon les conditions météo, si c'est une piste où il y a de la boue, si c'est très sec, de la poussière, si ça tape beaucoup ou si c'est assez soft. Enfin, si on a besoin d'un vélo qui est très nerveux parce que ça pédale beaucoup, donc il va nous falloir un vélo dynamique. Ou alors si c'est une pente très raide avec beaucoup de dénivelé, des gros trous, des grosses racines apparentes, là on va faire un vélo peut-être, je généralise, mais un petit peu plus souple, plus posé. Donc là, le premier jour sert à faire tout se dégrossir, se mettre en confiance sur le vélo, passer les obstacles, parce qu'en général, il y a des obstacles. Nous, les filles, on a souvent des sauts qui sont pas si faciles que ça à réaliser. Donc le premier jour, ça va être toute cette approche émotionnelle de j'ai peur. Parce qu'il y a un saut, il a l'air assez sketchy, mais il faut quand même le faire, parce que si tu prends l'échappatoire, tu perds du temps. Donc le premier jour, il faut valider. Donc le premier jour, il y a du taf.
Ok. Ouais, et puis là, tu parles de effectivement la reconnaissance mentale à pied. Tu parles de faire les tests et de vaincre sa peur, effectivement, l'appréhension de la première fois que tu fais une descente. D'année en année, les pistes changent?
Alors, on a les pistes qui changent quand même. Il y a des événements phares, comme par exemple Fort William, Mont-Sainte-Anne, mais ils essayent quand même de changer quelques passages. Et ensuite, il y a de la nouveauté. Cette année, il y avait Loudainville. Donc, en général, on peut connaître certaines pistes. Je dirais qu'il y en a la moitié qu'on connaît avec des petites modifications. Mmh. Et d'autres, par exemple, comme Léger, où là, c'était sur le même versant, mais il décale les piquets de 2-3 mètres. Et ça, tout le monde est content parce que ça apporte de la nouveauté. La piste n'est pas tracée et puis ça voilà, donc on connaît certains passages, mais les sauts par exemple souvent ils échangent ou alors il y en a des nouveaux, donc
OK. Et peut-être pour comprendre là pendant ces deux jours, donc j'imagine très bien en tout cas te descendre à pied, regarder et le lendemain tu vois descendre doucement et puis tenter effectivement de caler, on va dire, enfin de cette photographie visu avec tes yeux au maximum la piste. Entre les deux, est-ce que t'as un carnet, t'écris des choses, et est-ce que toi tu visualises et que tu te poses et que tu fermes les yeux, tu vois, là je suis en train de le faire, et de te dire ok, ça je l'imagine comme ça, ça je l'imagine comme ça. Parce que ça c'est du travail
Voilà, donc tout ce travail on va le faire sur la roco à pied. Bah là par exemple, vu que je pouvais pas courir, j'ai coaché une petite junior, Lisa, et je lui ai rappelé, donc au bout de 3 descentes, j'ai dit c'est bon, tu l'as en tête depuis le début, donc là pose-toi. Et c'est ce qu'on fait, on revisualise un peu jusqu'au début, toujours dans l'idée de gagner du temps, quoi. Plus tu imprimes, plus tu ancres. Alors après, on travaille aussi de la visualisation avant la course, mais il faut laisser une part de instinctive, parce que tu peux pas visualiser exactement ce qui va se passer, parce que du coup sinon t'es plus dans le moment présent. Mais on fait des choix de trajectoire, donc la journée de roco elle est extrêmement importante parce qu'on fait des chronos sur les passages. Donc tu te rends compte tout ce qu'il y a à faire, il y a passer les obstacles, trouver le bon setup de bike, adapté, et ensuite on fait des chronos sur en fait on va essayer différentes lignes. On a l'équipe des frères Ruffin, donc qui gère le team Koumen-Salmekov, qui sont sur la piste, et dans un passage il va toujours y avoir plusieurs trajectoires. Eux ils viennent du ski, donc la trajectoire c'est vraiment leur truc, ils sont très très performants là-dessus. Donc nous le pilote, on va avoir la GoPro sur le casque, on va avoir les personnes extérieures, et au moins on a une vision vraiment en 3D des différentes trajectoires qu'on va adapter également en fonction de comment le terrain évolue. Il peut y avoir une trajectoire qui marche le premier jour, et puis s'il y a tout le monde qui la prend et que le virage commence à se casser la figure, on va être obligé de changer, d'adapter. Donc c'est vraiment un travail d'adaptabilité.
Ok. Je vois qu'effectivement il y a de plus en plus de choses
d'éléments.
Mais ok, incroyable. Et tu saurais dire, entre ton arrivée sur une compète et tu passes la dernière fois la dernière ligne d'arrivée, tu saurais dire combien de fois t'as visualisé ou fait la piste dans ta tête?
J'y pense selon... C'est le challenge, c'est d'essayer d'arriver à couper, parce que sinon tu coupes pas en fait pendant, c'est du mercredi jusqu'au dimanche, et c'est ça le challenge, c'est d'arriver à te sortir un peu de cette piste, de tout ce qui se passe. Donc je peux pas te donner un nombre, mais c'est le piège que ça te bouffe, quoi, parce que tu penses qu'à ça, et puis tu te poses 36 000 questions de quelle trajectoire je prends, mais c'est ce qui anime, c'est ça de bouffe, mais c'est aussi génial parce que tu te prends, c'est comme si tu te prends la tête avec un problème de maths, et après quand t'arrives à le décortiquer, c'est juste royal. Donc la finalité, c'est d'arriver à faire ce run final, donc le dernier run, sous le feu des projecteurs, avec toute la pression que la course peut comporter, avec le public qui est avec des tronçonneuses au bord de la piste, et de réussir vraiment à pouvoir être dans le lâcher prise après une semaine à bien te prendre la tête. Donc c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est que tout évolue, tout change et il faut s'adapter en permanence. Et je pense qu'une des clés, mon coéquipier, Amaury Pierron, est très, très fort dans cette adaptabilité. Je m'inspire beaucoup de lui parce que, voilà, il adapte toujours à de nouvelles situations. Il sait toujours trouver les meilleures solutions pour s'adapter et moi, j'ai un côté plus dans le contrôle où je veux un peu, j'ai du mal à lâcher prise voilà, et quand j'ai une trage que j'aime bien et qui me plaît, c'est difficile pour moi de la changer, ou alors un saut sur lequel je fais un focus et c'est difficile pour moi, alors je vais le passer et là il va y avoir soit des émotions tellement positives que je vais perdre du jus ou tellement négatives que je vais perdre du jus. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver le dernier jour, le dernier run avec un maximum de fraîcheur pour avoir pour prendre un max de plaisir et sortir un beau vélo.
Ok. Comment tu définirais ton style de descendeuse?
Mon style, j'aime vraiment, je suis à l'aise dans tout ce qui est technique parce que je fais du vélo depuis l'âge de 5 ans. J'ai les coudes bien écartés, les fesses bien en arrière. Et voilà, je suis, j'ai envie de dire une technicienne parce que je suis très à l'aise dans le technique sur tout type de terrain. Les sauts, ça a été une partie très difficile de ma carrière parce que j'ai pas commencé par l'école BMX. Soit on commence par l'école BMX, soit on commence par l'école trophée régional des jeunes vététistes où on fait des petites compètes avec le même vélo en trial, en descente. Donc c'est par là que je suis passée moi. Donc j'ai galéré un petit peu avec les sauts, donc je dirais que c'est pas mon point fort. Mais voilà, donc je pense que je suis à l'aise et quand une piste est vraiment bien dure.
Beaucoup de racines. OK. Et vous allez à quelle vitesse dans les pointes?
Alors ça, c'est la question qu'on nous pose en premier en général, la question la plus demandée.
Et pourtant, ouais, tout joue dans les passages où vous allez le moins vite.
Voilà, c'est ça. C'est que le plus dur, c'est quand c'est raide et qu'on va pas vite. Enfin, on va à 35 km/h sur un passage très raide, très... où il y a des gros...
35 km/h quand même.
Ouais, la piste de Val d'Isol, par exemple, la moyenne, si je me trompe pas, c'est ça. Où là, il va y avoir vraiment des gros trous, des grosses bassines. Donc, en fait, le corps, il va vraiment prendre cher, quoi, parce que ça bouge dans tous les sens. Et je compare un peu cette piste à la guerre, quoi. C'est vraiment la guerre. Et quand je suis au départ, je me mets en mode, là, je vais à la guerre, quoi. Et alors qu'une piste comme Mont-Sainte-Anne, par exemple, où il y a des champs où ça va à fond... on peut atteindre, je me souviens, Rachel était allée à 75 km/h. Donc voilà, donc c'est aussi impressionnant, mais c'est complètement différent parce que là, bah, t'es dans un champ, c'est un peu plus style piste de ski où voilà, on lâche les freins parce que au final, il n'y a pas trop de crocodiles.
je vois très bien. J'aime bien la
descente imagée.
OK, hyper hyper intéressant. Et comment tu te sens physiquement, psychologiquement, émotionnellement après une descente?
Alors après une descente à la fin d'une semaine de course ou ça dépend l'état que tu as emmagasiné de fatigue, si c'est
à la fin d'une semaine de
course, c'est moi je suis vidée, j'ai surtout toutes mes...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Douleurs qui ressortent, en fait, toute la semaine, tu es drivé par l'adrénaline. En fait, c'était porté par l'adrénaline et tu vas rechercher vraiment au plus profond de toi. Et du coup, je me suis cassé quand même beaucoup, beaucoup d'os dans ma carrière. Et je sais que le soir d'une course, j'ai vraiment toutes les douleurs qui ressortent. Et je suis vidée, je dors jamais, que ce soit un bon résultat ou un mauvais résultat, je dors pas. Donc c'est pour ça aussi que le travail cérébral, il est important pour récupérer après une course, parce que souvent là cette année par exemple, là ils sortent de 3 semaines de course, donc si tu veux arriver frais pour les 2 d'après, il faut gérer ça aussi. Mais ouais, moi je suis bien vidée. Ou alors ben Benoît Coulanges qui a gagné la dernière étape en France, là il a pas dormi de la nuit tellement il était heureux, quoi. Donc donc c'est vraiment une telle intensité que le post-course, il est bon. En plus souvent on est dans un milieu où il y a une très bonne ambiance, donc
<C'est joie. rire>
donc ouais, c'est vraiment une belle grande famille du VTT où c'est toujours très festif après la course. C'est très professionnel et très festif à la fois, parce que bah, le lendemain, il y a toutes les équipes qui sont en train de démonter leurs énormes pits pour pouvoir les remonter 2 jours après. Mais ça n'empêche pas que voilà. Donc, ouais, après une course, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de douleurs, tu te sens vidé, tu as donné, quoi. Donc, j'imagine comme tout sportif après une course. Mais ce côté nerveux, ouais, il n'est pas facile à gérer.
Ouais, faut démancher. C'est quoi les douleurs?
En fait, je me suis cassé le pied, le pied il y a 3 ans, 4. Et j'ai une énorme arthrose, donc là il était question de me bloquer une partie du pied l'année dernière. Et on a un petit peu peur de comment je serai sur le vélo, donc on le fait pas encore, on le fera plus tard. Mais par exemple, mon pied, il encaisse beaucoup de coups dans la semaine, derrière ça sort. Ensuite, le ventre, le dos, les épaules, on a vraiment mal partout.
Les mains aussi, non?
Les mains, mais, ouais, en fait, il y a beaucoup de... Ça dépend des pistes, donc les mains, ça va plus être vraiment pendant la semaine. Mais on est habitué, et ça, on va jouer beaucoup sur les réglages.
J'ai regardé tes mains.
J'ai peu de cornes, là, mais bon, j'en ai encore, comme quoi, ça part pas.
Non, mais
pas
t'as les doigts
ça.
Musclés, c'est
bon. Ah bon.
Je me demandais aussi les avant-bras, je me disais. C'est les motards qui ont des gros avant-bras. Mais...
Oui, et puis en fait, plus tu as des avant-bras durs, plus ils tétanisent. Donc c'est important. On en a beaucoup qui font face à des syndromes des loges où ils vont avoir un muscle qui est tellement musclé qu'il a plus de place dans son aponévrose, dans sa gaine. Et donc, du coup, ça crée un conflit et il va tétaniser. Et les pilotes ont du mal à piloter. Ils sont obligés soit de s'arrêter pour que ça dégonfle, soit de réguler leur vitesse. Et c'est un peu mon avantage, c'est que je suis pas née avec une énorme musculature. J'ai besoin de vraiment beaucoup travailler pour progresser physiquement. Mais dans un autre sens, mes muscles tétanisent pas, quoi. Donc, on m'a déjà regardé à l'arrivée en regardant mes avant-bras, me dire, mais comment t'as fait pour descendre cette piste avec aussi peu de muscles? Mais c'est qu'aussi, d'être relâché, ça aide à pas tétaniser.
Ok. Hyper intéressant. Donc, je comprends là dans quel état t'es. Quand tu termines un week-end, j'apprends aussi qu'il y a sûrement eu peut-être quelques verres de vin ou de champagne, je sais pas. Qu'est-ce que t'as mis en place du coup pour récupérer tout ça?
Ben c'est vraiment.
Si on rentre dans le concret, tu vois, si on doit expliquer exercice par exercice et tout, je serais très curieux de savoir ça.
Ouais, c'est vraiment. Ben c'est quelque chose que j'ai encore pas trop pu mettre à l'œuvre parce que ça fait partie des nouveautés que j'ai mis en place là en 2023. Mais c'est vraiment ce travail de gestion émotionnelle parce qu'en fait, comme je te disais, mais ça fait partie des choses que je pense améliorer moi et que pas forcément quelqu'un d'autre aura ce souci-là, mais je fais des yo-yo émotionnels avec la piste, quoi. C'est-à-dire que je vais passer un road gap qui me fait énormément peur. Je me souviens au G, je vais être la première à le passer alors que il y a plus de 10 mecs qui se sont cassés la figure devant moi. Et là, du coup, pour moi, c'est comme si j'avais gagné une Coupe du Monde. Et je me souviens, je dis, hein, c'est le même feeling que si je gagnais une Coupe du Monde d'avoir réussi ce road gap. Donc ça fait up. Et puis derrière, il y a une qualif. Et puis là, tu finis à 5 perles. à 5 secondes. Et du coup, tu dis, mais c'est pas possible, la grosse remise en question parce qu'il y a la finale demain. Et en fait, tu as les émotions qui font up, down, up, down, up, down. Tu as une chute par-ci, un bon chrono sur un secteur par-là. Et donc, du coup, concrètement, c'est de lisser ses émotions pour perdre le moins d'énergie. Et donc, du coup, pour lisser vraiment ses émotions, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur une course. C'est vraiment tout un travail en amont. Donc, c'est tout le travail que je peux faire avec Aurélie sur vraiment décortiquer chaque émotion, savoir quel process mettre en place quand il y a quelque chose qui vient paniquer. En fait, j'ai tendance à, par exemple, avoir peur d'un saut direct, c'est la panique. Et en fait, là, donc du coup, c'est sa théorie des trois cerveaux où je vais vraiment partir dans mon limbique, mon cortex. Mmh. Donc, c'est des parties du cerveau où on part soit dans les émotions, soit dans le mental à vouloir tout calculer. Et en fait, j'écoute pas ce que mon corps il me dit. Donc, c'est vraiment essayer de revenir dans son corps. Revenir à de la respiration, revenir terre à terre, revenir avec donc tous ces exercices des audios qu'on fait ensemble, tout ce qui va reconnecter mon cerveau avec mon corps et qui va là m'apporter les bonnes réponses, les vraies bonnes réponses. Ouais. Parce que si j'écoute mes émotions, si j'écoute mon mental, ça va partir en cacahuète dans tous les sens. Donc c'est ça le challenge. Alors c'est quelque chose que je travaille, qu'on peut travailler dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment réguler voilà ces émotions pour essayer d'être dans un état moins fatigué en fin de semaine de course.
Voilà. Ok. C'est quoi ta relation à la peur?
Je pense que si on n'a pas peur, enfin je pense que c'est vraiment important d'avoir peur. Si j'ai pas peur moi. Par exemple, s'il y a un saut, s'il me fait pas peur, je vais aller le faire sans prendre conscience du danger. Alors que la peur, elle me permet de me dire, OK, t'as peur, tu l'accueilles, quel va être le danger? Là, il y a ce virage-là juste avant le saut qui a l'air de glisser, ou attention, il faut quand même arriver à la bonne vitesse. Donc pour moi, la peur, c'est vraiment... une alerte de prends les informations. Alors qu'il y a certains profils qui ne vont pas avoir peur. Oh, ben, il passe super bien le saut. Et puis, boum, ils n'ont pas calculé qu'il y avait des rafales de vent dans tous les sens et que du coup, ils vont se faire coucher sur le saut. Mmh. Donc, voilà, c'est la peur qui me met dans un état désagréable, mais qui va être un état de performance.
Mmh. OK.
Parce que c'est pas agréable d'avoir peur. Mais c'est un état de c'est le précurseur du bonheur parce que derrière tu as d'abord la peur, surpasser cette émotion, la gérer, passer un événement difficile et puis derrière c'est on a fait un petit step au-dessus. Donc sans cette étape désagréable, on peut pas passer un step au-dessus.
Ok, c'est marrant ce que tu dis parce que je suis en train de lire en ce moment un truc sur la peur qui vient des Antisèches du bonheur de Jonathan Lehman. C'est un livre, tu vois, qui parle beaucoup de méditation, qui a eu beaucoup de succès en tout cas, qui est un très très bon livre qui se lit très facilement, que je recommande beaucoup. Et un des 12 préceptes, une des 12 Antisèches du bonheur, c'est je combats mes peurs pour vivre le bonheur en fait. Et ce qu'il explique, il fait une super métaphore. C'est de voir la vie comme une cible de tir à l'arc. Et que les deux premiers cercles, c'est ta zone de confort. Ensuite, le cercle au-dessus, c'est ta zone d'apprentissage. Donc, tu vas souvent, tu vois, apprendre une recette de cuisine, voyager dans un pays où t'es jamais allé. Tu vois, c'est un apprentissage assez simple. Ou apprendre une nouvelle langue, tu vois, alors que t'en connais déjà. Et ensuite, il explique que il y a deux zones ensuite qui sont beaucoup plus dures à visiter, c'est une zone de peur et ensuite ta zone de génie. Et ce qui te fait comprendre, c'est que pour aller dans ta zone de génie, en fait, t'es obligé de passer par la zone de peur. Et que là où, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres moins, c'est justement cette capacité à aller dans la zone de peur parce que tu sais qu'après, il y a ta zone de génie. Mmh. Et d'oublier que c'est la peur, mais que c'est de la vigilance, tout simplement. C'est de la vigilance parce que tu te prépares à être génial, tu vois.
C'est ça.
Et du coup, c'est marrant que tu parles d'étapes parce que moi, je vois vraiment de plus en plus la peur comme l'avant-dernière étape avant avant la réussite en fait, tout simplement.
C'est ça. Et ne serait-ce qu'à l'entraînement, j'ai souvent peur de faire un sprint sur une route à plat. Alors qu'il y a quand même, quand je te raconte ça comme ça, il y a quand même rien qui fait vraiment peur. Mais c'est souvent à l'entraînement, t'es dans un état de telle fatigue que t'as l'impression que quand tu vois le contenu de la séance, tu vas jamais y arriver, quoi. Tu te dis, wow, mais là, je suis au bout du rouleau. Et puis, peur de pas faire aussi bien. T'as des watts à respecter, peur de pas y arriver, peur de l'échec. Et en fait, c'est vraiment dans ces états de fatigue tels que j'ai réussi à sentir vraiment une sensation, mais de bonheur ultime derrière. Et tu te dis, mais c'est génial, c'est juste de passer au-dessus de quelque chose que tu crois impossible. Tu penses que c'est impossible aujourd'hui. Ben voilà, j'ai envie d'écrire à mon entraîneur en lui disant, ben non, je vais pas m'entraîner, c'est juste pas possible. Et en fait, d'y aller, de mettre tout ce process en place et d'y arriver, d'avoir respecté what, et ben c'est ça vraiment qui te fait te sentir vivant et trop fort, quoi. Donc c'est cool.
Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui, effectivement, dans le sport, je pense que c'est une des émotions les plus fortes que tu peux vivre et que tu retrouves très difficilement ailleurs. C'est pour gagner, t'es obligé de passer par ta zone de peur et du coup, le sentiment, pas de délivrance, mais tu vois, de fierté d'avoir passé cette zone-là, il est immense, quoi. Et il y a une autre citation, et puis après, on peut changer de sujet, mais une autre citation qui m'a beaucoup marqué, les choses qu'on ne fait pas qui sont difficiles, c'est parce qu'on ne fait pas les choses qu'elles deviennent difficiles. Et c'est vrai, en fait, tu vois, la première fois que tu fais un truc, ça fait toujours flipper, c'est toujours un peu effrayant et c'est toujours un peu douloureux. Tu vois, la première fois que tu fais le saut, j'imagine que tu dois ressentir un peu ça. Et puis une fois que tu l'as fait, ça devient complètement facile, quoi.
C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est apprivoiser un obstacle.
Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février?
Du coup, donc ouais, cette chute au mois de février, vraiment anodine, une petite chute à vélo dans un virage à plat, enfin une chute comme une autre.
Attends, tu fais combien de chutes par an?
Non, je serais pas capable de. Je les compte pas, mais on n'aime pas ça quand même tomber. Hein, donc. En général, quand je tombe, ça fait mal et souvent il y a un gros bobo. Donc, ouais, non, on les compte pas. Après, pour moi, il y a glissade et chute, quoi. Il y a glissade et chute et donc du coup, bah là, ouais, au mois de février, une chute, mal à la tête derrière et
tout de suite mal à la tête.
Ouais, j'avais mal à la tête et puis.
C'était comme d'habitude la douleur.
Je me suis sentie bien sonnée.
Okay.
Mais je me suis relevée, mal à la tête et ouais, vraiment la chute pas au bon endroit, au bon moment, sur de la fatigue. Et donc voilà, vu que un an auparavant, j'avais déjà fait une petite commotion qui était rentrée dans l'ordre au bout de 5 semaines. Quand je suis tombée la première fois, la première commotion, ça, j'avais 31 ans. Je faisais du vélo depuis l'âge de 5 ans et j'ai jamais ressenti ce genre de choses après une chute. Là, pareil. Et en fait, nous, dans le vélo, mais qu'est-ce que c'est une commotion, quoi? On est clairement pas là. Je te parle au mois de février, hein, maintenant. J'en sais un peu plus. Okay. Mais au mois de février, c'est en fait la panique de savoir. Je pense que j'avais quand même bien enregistré les 5 premières semaines qui m'avaient paru interminables avec des maux de tête à l'effort. Et donc du coup là c'est ah non mais c'est pas possible, je vais encore pas revivre la même chose, quoi. C'était l'enfer. Et donc
ça avait été quoi là, les symptômes la première fois?
C'est en
fait,
parce que
si tu le considères déjà comme l'enfer, c'est que c'était
ouais c'était en fait c'est que tu peux faire de sport sans avoir mal à la tête. Donc c'est quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai pas appris dans les bouquins, que j'ai pas la ref, quoi. J'ai pas la ref et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ce schmilblick? Et là, du coup, quand je suis tombée, j'ai ressenti un peu la même chose, bien fatiguée l'après-midi, mal à la tête. Et puis, pendant une semaine, je savais pas du tout quoi faire. Parce qu'on est à un mois de la Coupe du Monde, l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, quand ça fait 6 mois que tu t'entraînes comme une acharnée et que t'as un mois de la première Coupe du Monde, tu te dis, ben, une semaine de repos, c'est énorme. Donc, au bout d'une semaine, je vais faire un petit tour de bike, ça va, cool. Et en fait, le lendemain, je reprends la muscu plus facile que d'habitude, mais quand même une muscu un mois avant une Coupe du Monde pour reprendre le cycle. Et là, cette pression dans la tête était juste insupportable. Et du coup, là, je me suis dit, merde, bon, là, ça coince et ça passe pas. Donc, je tire un petit peu la sonnette d'alarme en appelant un peu le corps médical autour de moi, en leur disant, bon, j'ai pas voulu trop en parler pour pas stresser. Mais bon, là, ça me refait un peu la même chose.
Et tu le savais au fond de toi?
Je savais que, oui, quand j'ai eu ça, j'ai su directement que c'était ça. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, en fait, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, donc c'est-à-dire de reprendre vite mais doucement, eh ben, je pense que ça aurait fait moins de dégâts, ça aurait moins créé de panique, et il y a complètement un néant de connaissances et ça me fait un peu mal au cœur pour tous les jeunes qui font du vélo et qui peuvent faire un chaos et le lendemain remonter sur le vélo. Bon. Il y a 85% des commotions qui rentrent dans l'ordre en 2 semaines.
Ouais.
Et 15% qu'on a du mal à comprendre pourquoi qui traînent. Donc ça s'appelle un syndrome post-commotionnel. Voilà, donc il y a plusieurs hypothèses. Les filles sont moins musclées aussi du coup. Donc du coup, l'impact de la commotion, c'est vraiment le cerveau qui va bouger dans la boîte crânienne qui va bouger. Et donc du coup, cet impact serait bien plus violent si on a un coup faible que si on a un coup musclé. Donc c'est pour ça que se renforcer le cou quand on fait un sport comme le nôtre, c'est indispensable parce qu'en plus, on a le poids du casque. Donc ça rajoute encore du poids. Donc ça peut être une des hypothèses.
Après, je te rassure, pour avoir rencontré, enfin, les rugbyman aussi, ils font des commotions cérébrales à tout va.
Bien sûr.
Je te parlais d'Axel. Axel, ça a duré plusieurs mois.
Donc du coup, faire les bonnes choses au début, pour moi, c'est quelque chose qui a été complètement loupé. C'est-à-dire loupé total. C'est-à-dire que j'ai été m'entraîner, j'ai cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai forcé, j'ai reforcé. Il y a eu trop de temps à essayer de tirer sur un cerveau qui demandait juste à se reposer ou alors à faire du doux, quoi. Donc, de ce que je sais aujourd'hui, il faut aller marcher 20 minutes dès que tu peux et puis passer un premier petit palier, c'est-à-dire passer 30 minutes, puis un petit sprint, monter à fréquence. Et tout ça doit être progressif, alors que d'aller mettre une muscu sur un cerveau commotionné, c'est la pire des choses à faire parce qu'il tire la sonnette d'alarme. Donc, voilà.
Puis, j'ai aussi vu que... Il y a la partie sportive, effectivement, qui est importante, mais il y a aussi la partie de la vie de tous les jours. Axel, il me disait que s'il avait une conversation, trop engagée avec quelqu'un, lui, il s'est endormi à table, il y avait un débat.
Je me suis endormie, c'est un puzzle avec mon neveu de 4 ans, et c'était un puzzle de l'âge de 4 ans, quoi.
Le fait d'être en train de chercher des pièces et tout, ou de regarder un film un peu trop fort, ou de lire un bouquin, ça peut te mettre KO, quoi.
C'est ça.
C'est difficile de reposer le cerveau.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout, j'imagine, enfin les gens qui habitent à la ville, qui ont des enfants, quand on te demande de reposer le cerveau, ou alors que t'as des contraintes vraiment de la vie de tous les jours, alors que si tu fais les choses bien de suite, je pense que ça aide. Et voilà, donc c'est de démocratiser les choses parce que de ce que je comprends. Donc là, je suis à Paris parce que je vois un kiné spécialisé donc dans le vestibule. Et de ce que je comprends, en fait, donc c'est juste un bug. Il y a toutes les connexions qui sont un peu brouillées et qu'il faut juste raccorder pour que ça se remette en place rapidement et que du coup quand on a une commotion, c'est un peu comme un vase. À la fin d'une journée fatigante, on a tous un peu mal à la tête et que là le vase il se remplit pour en rien, un klaxon un peu trop, en fait ça va être, tout est exagéré et donc le vase se remplit vraiment beaucoup plus vite et on arrive à un seuil de moi c'est les maux de tête si on en fait trop. Alors là, on a 7 mois, j'ai énormément progressé, c'est-à-dire que j'ai pu aller sur les 2 manches de Coupe du Monde et tout ce qui était le bruit, toutes les émulations, c'est quand même bien passé. pendant 4 mois, j'ai pas pu marcher plus de 20 minutes par jour. Et là, aujourd'hui, j'arrive à faire des tours de vélo de route, mes premières PMA. Et j'ai du mal encore avec la vibration et le vélo de descente. Donc, j'ai fait 3 tentatives. La première où j'ai dit les feux sont ouverts, c'est tout bon. Allez, que j'ai fait 9 descentes dans une journée, les pistes les plus défoncées. Et pendant, c'est ça le piège avec moi, c'est que ça prend les informations, mais c'est après, derrière, le traitement de la récup qui se fait très mal. Et donc, du coup, ça m'a coûté 3 jours de coucher, à avoir des maux de tête intenables. La deuxième session, j'ai fait une après-midi et les pistes étaient un peu trop... défoncé, donc du coup ça a été dur. Et là, ça progresse, c'est-à-dire que récemment, la semaine dernière, j'ai pu faire une journée, dormir et me lever et pouvoir retourner sur le vélo. Alors pas la journée entière, mais j'ai quand même pu me lever et retourner sur le vélo le matin. Et la nuit, c'est vraiment un indicateur de récupération. Donc c'est tout est une question de palier à passer. Et voilà. Ouais. Donc une fois qu'on comprend le fonctionnement, en fait, c'est ça le plus dur, c'est qu'au début, on te dit, oui, bah, il va falloir apprendre à comprendre, toi, tes mécanismes, et on peut vraiment pas comparer une commotion avec une autre, parce que chacune sont vraiment différentes. Moi, c'est vraiment l'effort qui va me causer ces maux de tête et cette concentration. Donc, dans le sport que je fais, c'est sûr que c'est un petit peu embêtant, mais là, ça progresse bien comme il faut, et le fait d'accepter ce qui arrive, ça aide aussi.
Ouais. Ok. Voilà. Mais déjà merci beaucoup d'en parler parce que effectivement j'ai le même sentiment si tu veux avec Axel, c'était de se dire waouh, c'est un sujet pas du tout maîtrisé, pas forcément tabou, tu vois, je pense pas que les gens veulent ne pas en parler et tout, mais qu'on maîtrise pas, qui peut arriver à tout âge, notamment quand on fait des sports effectivement dans lesquels il peut y avoir des contacts, des chocs, oula, on a perdu une lumière, mérite en tout cas de plus d'explications qui pourraient arriver à des jeunes, qui nécessite qu'on se connaisse, quoi.
C'est ça. Après, ouais, j'ai quand même encore des inconnus à me dire, mais pourquoi on n'en parlait pas avant? Et puis, du coup, j'ai beaucoup la réponse de parce que les gens osaient pas. Et du coup, j'ai du mal vraiment à comprendre où est le problème, quoi, parce que
ouais,
okay. Parce que ouais, il y a pas, pour moi, il y a pas de. Alors, c'est sûr que sur Instagram, je reçois d'énormes messages en me disant « Ah ben, j'ai perdu la mémoire, mon cerveau fonctionne plus comme avant, ça, mais j'ose pas en parler parce que j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un fou. » Et je me dis « Mais en quoi t'es fou de tomber, d'avoir ton cerveau qui bouge, que ça crée des petits bugs à reconnecter. » En fait, système vestibulaire, système visuel, système proprioceptif, tout ça, c'est de la mécanique, quoi. C'est sûr qu'il y a des millions de connexions et c'est très difficile de comprendre le lien entre tout, et c'est tout là la complexité du cerveau. Mais j'ai envie de dire, bah, peut-être que toi, ton problème, il est plus visuel, plus vestibulaire, plus proprioceptif, et qu'il faut juste faire une rééducation, comme on rééduquerait un genou, même si c'est pas les mêmes structures. Ça nécessite là de passer les paliers. Donc, ouais, c'est, il y a un désert médical, alors que si d'entrée de jeu, ben voilà, tu dois faire ça, aller en rééduque pour reconnecter tout ce qui est cognitif, ça me paraît beaucoup plus simple et voilà, il y a pas de être fou de devoir rééduquer des choses qui sont, moi, par exemple, quand j'ai fait mon bilan, chez Neurovision, au mois de mars, j'ai pas réussi à passer le premier palier de mémoire, donc parce que ça, c'est comme si tu perdais ta mémoire, et puis derrière, de suite, en une deuxième, 2-3 séances, en fait, ça se reconnecte très vite, donc ça, j'ai plus de soucis très très rapidement, alors que si j'avais pas fait ce taf là, ce serait resté des années, quoi.
Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc y a des choses simples à mettre en place, et voilà. Après, je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler. Il faut pas que ce soit tabou, mais il faut pas non plus que ce soit quelque chose de il y a une chute, on tire la sonnette d'alarme de suite, commotion. Enfin, il faut être conscient du danger, donc mais pas non plus devenir psychopathe.
Ouais,
parce que tu as vite fait de, bah, nous, dans l'équipe, justement, après ce qui m'est arrivé, c'est très difficile de, parce qu'il y a, bah, ne pas prendre le départ de la course. Et en fait, si on connaît, ben, les symptômes, si on connaît comment les détecter, si on connaît que mettre en place en cas de chute et ne pas en faire tout un flanc, j'ai envie de dire, à générer énormément de stress, de panique. En fait, voilà, le plan déroule et voilà. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose, le cerveau, on en a qu'un, il faut pas faire n'importe quoi et c'est sûr, mais voilà, il y a plein d'actions à savoir et à mettre en place.
Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Et bah j'ai encore l'impression que tu vois que c'est réservé, tu vois, à certaines grosses pathologies. Tu vois, on a une interview qui est récemment sortie avec Tiffany Huot-Marchand. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et on a beaucoup parlé effectivement dans l'échange de sa rééducation et du fait qu'elle a dû tout réapprendre. Et ce qui est hyper déroutant, c'est que aussi à l'inverse, vu que tu citais un peu la kiné, à l'inverse de la kiné ou de tout ce qui va être très mécanique, très musculaire, où tu vois qu'il y a une espèce de progression linéaire et très facilement mesurable, tu vois, avec de la tension, avec des charges et tout, tu vois. Là, sur le cerveau, bah, des fois, tu régresses un peu. Ou des fois, tu traverses un long plateau et débloquer ce plateau-là, c'est en faisant d'autres choses, tu vois. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais elle, en tout cas, elle dit que elle avait été super bien accompagnée, tu vois, avec des très bons moyens. Mais je pense que c'est encore très méconnu, tu vois, pour le corps médical, on va dire, un peu plus généraliste.
Ouais, c'est vraiment en train de se démocratiser, de se développer les recherches. Après, faut faire vraiment attention à tout ce côté business aussi qui peut se cacher derrière les commotions, tout ce qui peut être créé pour soigner le cerveau. Comme une message j'ai reçu, viens deux jours, t'auras plus rien. Et du coup, je suis un peu tombée dans le panneau de trois. Et c'est sûr que ben quand on est au fond du trou, on a envie de s'en sortir, donc on a envie de tout essayer, mais je pense qu'il y a juste pas de solution miracle et que chacun est différent. Et alors chaque cerveau sont vraiment différents et que il faut juste essayer de travailler un peu tous les axes de travail à travailler. Voilà.
Ouais. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui?
Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. La lumière bleue me dérange un petit peu.
Ah zut. Bon bah écoute, on va dire. C'est vrai, mais fallait le dire tout de suite.
Non, ça va bien, mais c'est non, ça okay. va.
Ah zut, je suis désolée.
Non, mais je la vois bien.
On peut l'éteindre.
Non.
Tiens, regarde, on va
l'éteindre. Non, ça va.
Si, regarde, on va l'éteindre. C'est pas grave.
Non.
C'est pour la fin.
Allez hop. Oh non, c'est dommage.
C'est pas grave. Bah attends, on a déjà vu des belles images. Et puis les auditeurs qui sont encore là avec nous, déjà ont eu une petite masterclass sur la commotion cérébrale. Ils peuvent se douter que effectivement ça prend de l'énergie et que après une heure d'interview, on peut mettre un petit peu de côté l'aspect visuel pour ton confort. Et en plus, comme je te cuisine, je sais que ça peut être fatigant. Et c'est pour ça que je voulais terminer en te demandant comment tu te sens aujourd'hui et comment tu sais que tu seras prête à reprendre.
Je me sens du coup bien mieux. J'ai quand même la sensation de porter un petit poids que tout n'a pas disparu et j'ai hâte de pouvoir me lever le matin avec la même énergie et pas de symptômes, parce qu'en fait ça dépend de ce que tu fais la veille et comment tu récupères. Mais je pense que je suis sur la bonne voie et si ça progressait pas, je m'inquiéterais, et là ça ne fait que progresser. Donc pour moi, tant que les choses bougent, tant qu'il y a du mouvement, comme tu dis, il y a vraiment des phases de haut, bas, et puis parfois il y a des longs plateaux et c'est un peu usant. Mais voilà, je suis super bien entourée et je me sens vraiment chanceuse parce que ça doit pas être évident de se sentir seule face à ça. Moi, j'ai été dès le début super bien entourée, donc voilà, je reste positive. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas des moments down. Il y a des moments que j'ai pas traversé et que sûrement je traverserai qui sont pas rigolos du tout. Mais aujourd'hui, je pense que cette passion du vélo, tout ce que ça me procure, là, ça me manque bien trop. Et voilà, il y a de belles choses en perspective. Et là, j'ai quand même quelque chose qui m'enlève un gros poids, c'est d'avoir tiré un trait sur ma saison. En fait, là, la saison, elle se termine dans 2 semaines. Et toute la saison, j'ai essayé de revenir vite. Et c'était une pression intérieure qui m'empêchait de progresser. Et là, ben, j'ai tiré un trait. Donc, je m'envole dimanche pour le Québec pour aller commenter la course. Ce sera la finale de la Coupe du Monde et je la ferai pas. Mais pour moi, c'est vraiment me dire, ben voilà, il y a tout un hiver qui arrive. On a prévu d'aller faire du vélo en Nouvelle-Zélande parce que Commensal ouvre un nouveau showroom. Enfin, il y a plein de belles choses qui sont de bon augure. Et voilà, le fait de sentir que j'ai le temps, qu'il n'y a pas de rush, ça apaise.
j'imagine. Mais écoute, en tout cas, je te souhaite de vraiment souffler et prendre du plaisir, tu vois, de retrouver cette notion de plaisir. Peut-être juste pour terminer sur le sujet, et après j'ai 2-3 petites questions de fin et je te libère. Il y a des athlètes là qui nous écoutent et qui se disent waouh, ce qu'elle vient de dire, Myriam, je me reconnais à fond dedans. Il faut que je fasse quelque chose. Et peut-être c'est des gens qui étaient un peu moins encadrés. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui écoutent justement pour écouter un peu les conseils de champions et de championnes. Qu'est-ce que tu recommandes de faire au plus vite?
Bah déjà d'en parler à son médecin. C'est vraiment la première étape et de sentir si son médecin s'y connaît un petit peu dans les commissions ou quel médecin il peut le recommander. Ensuite, il y a plusieurs centres pour faire des bilans. Moi, je suis allée chez Neurovision à Lyon où on a pu vraiment juste faire un bilan des yeux, un bilan cognitif et au moins, bah, c'est là qu'on a vu les petites choses. Il y a un outil qui est le neurotracker, c'est des balles qui bougent dans tous les sens et la façon dont on réagit à cet outil permet de savoir s'il y a des séquelles ou pas. Okay. Et puis, surtout si ça t'arrive et que c'est frais, en fait, de refaire vite quelque chose de doux. En fait, c'est ça, c'est de ne pas rester sans rien faire. Rien faire, c'est pas bon, mais faire d'abord de l'aérobie, puis un petit peu d'intensité une fois que t'as passé les paliers d'aérobie, et puis voilà, et de reprendre, de la jouer cool au début, et de reprendre, mais que en général, quand on fait les bonnes choses, je dis toujours quand on se casse quelque chose, c'est quand même une bonne chose parce qu'au final, on est forcé à se reposer. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'est arrivé, c'était juste qu'il y avait rien de cassé et du coup, il y avait cette pression de la Coupe du Monde qui arrivait, qu'il fallait faire vite et d'arrêter le vite et de prendre le temps et que 85% du temps, ça passe très vite. Et puis sinon, il y a plein de moyens pour améliorer tout ça. Et même si c'est vieux, j'ai entendu dire des personnes qui, au bout de 3 ans, arrivaient encore à améliorer leur qualité de vie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Il y a plein de choses et que c'est en plein boom. Merci, je pense, le rugby déjà d'avoir bien tiré les sonnettes d'alarme. Je pense que tout le monde connaît protocole commotion au rugby. Donc, ça commence déjà bien à se savoir que, voilà, il faut juste faire les bonnes choses au bon temps. Et
OK. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Merci d'avoir nous avoir éclairci sur ce sujet-là et je pense que c'est hyper important. Hein, c'est presque un sujet de santé publique. Donc voilà. J'ai les petites questions de la fin. Il y en a une, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais toujours, tous les jours, les deux premières heures de ta journée.
Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'atypique. Il y avait dans ma chambre d'hôtel une barre de stretching comme à la danse classique. Okay. Donc du coup, j'ai fait des beaux étirements là-dessus. Mais sinon, en général, quand je me lève, j'aime trop le bon café. Donc je me fais toujours un super bon café et un bon petit déjeuner. J'aime bien vraiment prendre le temps de faire un bon petit déjeuner. Donc quand je me lève, c'est ça, bien m'hydrater, bien m'alimenter et ensuite ma petite routine sur mon rouleau et mon tapis avant d'aller m'entraîner. Donc c'est un peu la routine matinale.
OK. Rouleau étirement dès le matin,
voilà.
Du coup.
Okay. Ouais, ouais. Alors il y en a qui font avant manger, moi je suis bien trop gourmande et j'ai juste hâte d'aller boire mon café le matin. Donc je fais ça ouais après avoir petit-déjeuner avant d'aller voir m'entraîner, ça me permet de tout étirer, de souvent en fait j'ai un rouleau avec des gros picots et il fait vraiment mal. Et en fait, à chaque fois, c'est tous les matins pareil, ça fait mal 2 secondes et après, c'est fini. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que l'entraînement passe aussi bien parce que t'as fait le mal direct et puis après, tout passe bien, quoi.
Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est qui les 3 personnes que tu vois le plus?
Mon amoureux, je pense, Gaëtan, que je vois beaucoup. Après, peut-être mon frère qui habite pas loin de chez moi avec mon neveu, ma nièce et ma belle-sœur. Et puis, la 3e personne que je vois le plus, au quotidien donc.
De façon un peu générale, tu vois. J'aime bien dire
j'ai
qu'on
tellement
un peu
de vies qui sont... je vais voir beaucoup une personne pendant une certaine période, puis plus la voir du tout, puis revoir une autre pendant très longtemps. Donc, ouais, c'est... peu difficile de donner la 3e personne. Je jongle beaucoup donc avec l'équipe où on est 15 pendant pour moi c'est 6 mois un peu à la maison et 6 mois en déplacement avec la troupe. Donc la 3e personne, je dirais l'équipe au sens au sens gros.
Si j'appelle Gaëtan justement et que je lui demande la plus grosse, justement, ta plus grosse qualité en amour, qu'est-ce qu'il dirait?
Il a toujours les bonnes questions. La plus grosse qualité en amour,
pour lui, tu vois.
Pour lui.
Pas forcément en amour, mais la plus grosse qualité que lui ressent, en tout cas.
Il s'ennuie pas. Voilà.
Et si je lui demande de me dire, allez, je vais pas dire un défaut, mais un axe d'amélioration.
Tordu.
Ok.
Voilà.
Ça me va très bien. L'avant-dernière question que je pose, c'est s'il y avait un livre ou un film que tu recommanderais à la terre entière de regarder pour être plus heureux, pour se divertir tout simplement, qu'est-ce que tu nous recommanderais
à la terre entière, un livre, un film. Je suis une des seules personnes, je pense, qui me suis mise à lire 2 jours après ma commotion. Je lisais pas et du coup, je me suis dit bon, je vais attaquer à lire. 2 semaines avant, c'était mon anniversaire et une copine m'avait offert le livre "Les gens heureux lisent et boivent du café". Et du coup, j'ai lu ce livre pendant cette période très désagréable. Et ça m'a permis de voyager. C'était un moment très très agréable. Donc c'était très facile à lire pour quelqu'un comme moi qui je lis pas beaucoup, mais c'était super. Et après film, il y en a tellement. Mais j'ai toujours aimé la 7e compagnie. Si on veut vraiment se détendre et juste prendre quelque chose à la légère, c'est comme ça, chef, et puis voilà, un petit moment, voilà, qui caractérise un peu ces années plus jeunes à se marrer.
Ok, eh ben écoute, je retiens, je connaissais pas les gens lisaient boivent du café.
Facile.
Si tu dis que c'est facile, c'est parfait, je pourrais.
Très facile et très, ça fait voyager, ça fait vadrouiller, et
Et ça rend heureux.
Voilà, c'est ça. Et il y a la suite, ne t'inquiète pas, la vie est facile ou je sais plus, et bah, c'est une chouette écrivaine.
Trop bien. Et cette team compagnie, tiens, je regarderai bien depuis le temps. La toute dernière question que je pose, c'est comme un passage de flambeau, un passage de micro, c'est de savoir à quel athlète tu me recommandes d'aller passer, et avec qui tu me recommandes d'aller passer 1 heure pour justement échanger un peu sur son parcours, son sport, le découvrir différemment. Et puis, ça peut y avoir aussi un autre sujet pas forcément santé, mais tu vois, ça peut être autre chose.
Ouais. Si on veut rester dans la même catégorie, mais différemment, je dirais, mon coéquipier, Maury Pierron, qui est une boule d'énergie, c'est une bombe, bombe en lui-même.
Il a l'air intenable.
Voilà. Maury, tu vas passer un bon moment, ça risque de passer très vite tellement c'est intense, mais génial. Et puis ensuite, là où j'habite, un enfant du pays qui est maintenant à la montagne, mais c'est Youri Duplessis-Kergoma, qui est le meilleur Français actuel en ski cross.
Ok.
Et qui a un très beau parcours et une très belle vision du sport, de la glisse, de la performance, et avec qui m'a beaucoup apporté, parce qu'on a fait pas mal de jeux ensemble, justement de jeux cognitifs, et qui m'a apporté cette valeur ajoutée à la performance. On échange sur beaucoup de sujets, donc voilà, je m'entends très bien avec Youri et je me régale de discuter avec lui. Donc si tu veux partager avec lui, c'est sympa.
Écoute, très cool. Merci pour ces deux recos. je connaissais pas Youri, donc je vais découvrir. Et je connais moins bien le ski cross, donc ça sera l'occasion de bien rentrer à fond dans ce sport. Merci infiniment, Myriam. J'espère que c'était pas trop épuisant.
Non, pas du tout. C'était vraiment juste pour trouver quelque chose à dire, mais ça allait très bien. Ouais.
Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Et comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas.
À bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !